Avec Frédéric, on est convenu que je dirais quelques mots sur l'État et les communs tels qu'elle-même l'abordait, en tout cas tels que je comprends qu'elle l'abordait. Alors pourquoi ce sujet? Ce sujet parce que c'est certainement le sujet sur lequel j'ai le plus échangé personnellement avec Silke. D'abord parce que sur la base du lien qui s'était créé entre nous, je l'avais fait inviter, si je peux dire, à un congrès international sur les communs qu'avait organisé l'AFD en 2016. Il y a encore des traces. Il y avait un débat entre elle et moi sur les communs. Il y a encore des traces sur le net. Pardon, un débat entre elle et moi sur l'État et les communs. Parce que, en dépit de nos accords fondamentaux sur l'essentiel des choses, on a une perception un peu différente de ce sujet. Voilà. Par la suite, d'ailleurs, David s'en souvient sûrement, à Potsdam, en 2016, j'avais été invité à un deep dive sur l'État et les communs, où on avait de nouveau poursuivi cette discussion sur la question de l'État et les communs. Voilà. Donc, c'est tout naturellement de ce sujet que je vais parler. Tel que je comprends hein, ce que Silke et David, hein, bien sûr, disent sur ce sujet, mais je pense que c'est lui rendre hommage aussi que de dire sur quoi je ne suis pas nécessairement d'accord hein, et sur quoi la discussion doit porter pour que la pensée de Silke continue à nous animer. Alors, à partir de la lecture que j'ai faite ou des discussions que j'ai eues, je pense que, puisqu'il faut aller très vite, hein, je cache pas que j'ai préparé tout ça assez sérieusement et que ça donnera certainement lieu à une publication à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y a trois thèses, donc je vais les envoyer en style télégraphique, que je voudrais mettre en discussion à partir de cette confrontation avec Silke. La première thèse, c'est que Silke ne parle pas, je dis Silke, mais je pourrais dire Silke et David, bien sûr. Hein, je dis Silke, bon. Ne parle pas de État et commun, mais de pouvoir d'État et de commung. Ça, c'est un premier déplacement qui est très important. Moi, j'aurais assez facilement tendance à parler de État et commun. Hein. Bon, mais c'est pas moi qui parle là. Pour le moment, j'essaie de comprendre ce qu'ils essayent de nous dire. Alors, c'est la première chose sur laquelle il faut intervenir. Pourquoi parle-t-il de pouvoir d'État et communisme? D'ailleurs, je tiens à dire que le deep dive de Berlin auquel j'ai participé avait été préparé par un papier de Silke qui s'appelle précisément State Power and Communing et pas État et commun. Et le rapport qu'a fait David porte évidemment là-dessus. Le rapport de nos discussions, puisqu'on est resté 3 jours, je crois, à Potsdam, à discuter de ça. Alors, pourquoi parle-t-elle de pouvoir d'État et communing et pas de État et commun? Parce que, pour Silke, l'État n'existe pas, elle le dit comme tel. Elle dit, l'État n'est qu'un ensemble de relations. Elle dit, l'État n'existe pas plus que le je existe sans le il. Donc, ce qui compte, c'est quelle relation l'État entretient avec son entourage, donc en particulier le territoire dont il a la charge, puisque l'État est inséparable à un certain niveau de la nation et des communautés qui sont dans un territoire donné. Donc, ça, c'est le premier point. L'État, il est en mouvement pour Silke. Et c'est pour ça que c'est ça qui l'intéresse, c'est que pour elle, vous l'avez compris, hein, elle n'a cessé là de le répéter, et elle me le répète, elle répète sans cesse, importe moins les communs que le commoning. Hein. C'est le commoning qui importe, que pas les communs. Point sur lequel, moi, je ne suis pas forcément d'accord, hein, je le dis tout à fait clairement, mais je pense encore une fois que honorer sa pensée, c'est justement discuter de vrais sujets et pas faire semblant qu'on baigne dans un univers de consensus mou. Bien. Alors, En tout cas, pour poursuivre avec sa pensée, l'écuménisme aussi c'est un mouvement, aussi c'est une relation. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse de parler de pouvoir d'État plutôt que d'État, parce que c'est la confrontation de deux mouvements. Le mouvement du communing qui vise à établir voilà, des choses là et faire un moyen, bon voilà, et on peut même rajouter soutenable, par rapport au pouvoir d'État. Alors le pouvoir d'État, tel qu'il ressort des travaux de Sidcup, donc en particulier du dernier ouvrage, c'est deux choses. Et donc je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est deux choses. Un, l'État est d'abord un gardien de l'ordre. Il est d'abord un gardien de l'ordre. Il agit, mais pour garder l'ordre. Et quel ordre? D'abord celui du marché. Et si que emploie l'expression avec laquelle moi je serais presque 100% d'accord, souvent de dire le complexe est un marché, the system market state. Voilà. Parce que fondamentalement, l'État est le gardien du marché. Mais il est aussi intention. Il est aussi action. Il est aussi action de préservation de l'ordre par rapport à des environnements bougeants, changeants, etc. Bien. C'est là, et c'est la deuxième thèse, vous voyez, je vais très vite, c'est là que l'État, le pouvoir d'État, rencontre le cloning. Parce que le cloning aussi, il est action. Mais il est action de transformation. Alors que l'État est gardien, le cloning, il est transformation. Et donc, la thèse qui parcourt toute la pensée de Sidcup, qu'on retrouve dans le livre, c'est qu'il y a nécessairement un jeu de tension permanente entre le pouvoir d'État, comme il s'exerce, et le cloning, comme il s'exerce. Parce que le cloning, évidemment, elle tient ça de Ostrom, même si, je le dis tout à fait tranquillement, il y a beaucoup de choses d'Ostrom qu'elle a laissé passer en chemin, hein, qui ont cessé de l'intéresser, ça c'est incontestable. Par exemple, moi je tiens à beaucoup plus de choses d'Ostrom que Sidcup, j'ai pas d'état d'âme à le dire, bien. Mais elle garde ça d'Ostrom, me semble-t-il, elle garde d'Ostrom que le commoning, et donc le commun qui en résulte, c'est au-delà de l'État, comme c'est au-delà du marché. Et donc, dans cet au-delà, l'État ne vous laisse pas nécessairement faire. Il ne vous laisse pas nécessairement faire. Pour les Français qui sont ici, je ne vais pas vous rappeler ce qui se passe à Sainte-Soline, hein, mais non seulement l'État ne vous laisse pas faire, mais il vous fait la guerre. Hein, il organise la guerre, hein, si nécessaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais notre ami Darmanin avait annoncé avant Sainte-Soline, vous allez voir des images de guerre. Ah ah, ah, peut-être les avait-il préparés. Hein? Bien. Voilà le cœur de la pensée. Alors, c'est pas forcément Sainte-Soline tous les jours, hein, bien sûr. Hein? La tension, elle peut être les tensions, hein, entre l'État et le communisme, il peut être plus diffus, plus en sachant s'éviter, en sachant s'ignorer. Bien. Mais, ok.
Il faut qu'on arrive à ton troisième.
Ok. Mais, voilà, le commoning, pour aller de l'avant, il rencontre l'État. Donc, le troisième point, j'y suis, c'est que, en dépit de cette tension permanente, de la paix, voire des accords ou des alliances avec des éléments du pouvoir d'État sont possibles et doivent être recherchés. Et, me semble-t-il, le propos de Sidcup ici, c'est trois choses. Un, il faut que l'État s'engage à cesser la guerre. Il doit permettre au commun d'exister. Hein? Sinon, il n'y a pas d'alliance possible avec l'État. Et encore une fois, pour des oreilles françaises, ça veut dire quelque chose, ça. Hein? Ça veut dire quelque chose. Hein? On peut ne pas être d'accord sur les bassines de Sainte-Soline. Mais on laisse les gens manifester. Et ensuite, on discute. Qu'est-ce qu'on fait à Sainte-Soline? On ne commence pas par envoyer des armées en bataille. Un, donc l'État doit s'engager à ne pas faire la guerre. Deux, l'État doit respecter l'auto-organisation des communs. Toute forme d'interférence sur l'auto-organisation des communs rend impossible la relation pacifiée entre l'État et les communs. Alors, enfin, les alliances possibles, c'est l'État peut être enabler, il peut être un facilitateur, c'est-à-dire qu'il peut créer des ressources favorables au commun. Des ressources, mais pas forcément de l'argent, hein, des ressources intellectuelles, réglementaires, etc., qui permettent au commoner d'exister. Et enfin, j'ai fini, l'État peut être contributeur. Et là, sont possibles des partenariats publics communs. Alors, je trouve très intéressant dans l'ouvrage, je trouve que c'est même une des parties les plus intéressantes, la référence au corps des sapeurs-pompiers ou au corps de sauveteurs en mer. Parce que c'est des situations dans lesquelles on a des associations qui participent avec des citoyens qui s'engagent volontairement aux côtés de professionnels d'État pour accomplir des missions. Elle dit ça, c'est des exemples de partenariats possibles. Et on peut les étendre à des partenariats publics communs. À condition, encore une fois, pour des missions particulières. À condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de tentative de capture du commun. Alors, je vais être tout à fait clair. Comme on le voit, par exemple, aujourd'hui, avec France Tiers-Lieu, avec la tentative d'acheter, à travers des appels d'offres, des pratiques de commoneurs en échange d'argent distribué, ce qui détruit ipso facto le commun, leur même qui préexistait. Alors voilà, j'ai indiqué mes points de divergence avec Silco, il faudrait en discuter. Qu'est-ce qui est plus important, le communisme ou le commun? Voilà, il y a une vraie discussion là, on n'a pas le temps de le voir. Hein. Mais j'insiste sur le fait que sur les trois conclusions concernant quel rapport entre l'État et le commun, moi je suis en accord complet avec ce qu'elle avance, et je lui sais gré, à elle et à David aussi, d'avoir formulé les choses de manière aussi claire. Parce que quand on lit Silke, il est tout à fait clair que l'État et le commun, c'est possible à une condition, que l'autonomie du commun soit respectée jusqu'au bout. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci.
Merci, Madame.